Je m'appelle Anne-Catherine Bonneau et je suis étudiante au Cégep de Saint-Jérôme en sciences humaines. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Martin Forget, le travailleur de rue de Sainte-Thérèse, pour l'écluse des Laurentides. Bonjour à vous.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'itinérance présente au Canada, plus précisément dans la région des Laurentides. Il sera question de parler du phénomène et de la perception de la société envers celui-ci. Selon la CISSS, l'itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale, donc une rupture de la société marquée par des difficultés et impasses. Commençons par parler de l'importance générale du métier. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre travail et de qu'est-ce qu'il englobe comme tâche au quotidien?
Bien, premièrement, le travail de rue, c'est une approche qui se veut humaniste. Donc, on va vers les gens. C'est à nous de se déplacer dans le milieu de vie des gens, dans le but de créer un lien de confiance avec des gens qui sont peu ou pas rejoints par les autres services. Donc, les gens des affiliations sociales. C'est bien de nommer que travailleurs de rue, souvent, c'est mitigé avec la rue, donc itinérance. On travaille avec des gens qui peuvent être en situation d'itinérance, mais avec toutes sortes de personnes aussi. Le seul critère d'exclusion est de ne pas être volontaire. Le genre de tâche qu'on peut faire, c'est aller chez les gens, dans les parcs, dans les bars, pour rejoindre ces personnes-là, d'essayer d'apporter un peu de mieux-être dans la vie des gens.
Super, parfait. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un travailleur de rue?
Moi, dans le fond, c'est à l'école, je faisais un certificat en toxico. Je voulais aller travailler dans une maison de thérapie. Pourquoi j'ai voulu aider des gens dans la vie? Mon expérience personnelle, le sentiment que ça peut apporter de se sentir utile à quelque part. À l'université, il y avait un prof que lui croyait vraiment, vraiment au travail de rue. Puis pendant son cours, il m'en a tellement parlé que ça m'a... Moi aussi, au niveau de mes valeurs, là, plus que j'en ai entendu parler, plus que je fais comme... On dirait que ça a été construit pour moi, cette approche-là. C'est ça. Ensuite, à la fin de mon cours, j'ai jamais travaillé dans une maison de thérapie, finalement. Et j'ai été appliqué à l'écluse et j'ai été engagé.
Super, parfait. Pour la prochaine question, l'itinérance est un sujet très tabou en société. À Saint-Jérôme, c'est un phénomène très discuté puisque les personnes itinérantes sont nombreuses, se situant un petit peu partout au centre-ville. Étant un travailleur de rue basé à Sainte-Thérèse, est-ce que vous voyez une certaine différence entre les personnes que vous accompagnez dans votre municipalité par rapport à celles de Saint-Jérôme? Si oui, pourquoi selon vous?
Je devrais commencer par dire que les personnes soient en situation d'itinérance ou pas, ou qu'ils soient peu importe où, oui, ils vont être jugés, mais c'est important de se rappeler que c'est un être humain qui est en arrière de ça. C'est clairement l'enfant de quelqu'un. C'est peut-être le parent de quelqu'un, le frère, la sœur. Des fois, c'est peut-être une des façons qu'on peut se remettre à comprendre, à revivre un peu d'empathie envers ces gens-là. Parce que si on est dans « Ah, ça me dérange que... » C'est les comportements dérangeants, mettons, qui peuvent ressortir de certaines personnes qui sont en situation d'itinérance. Parce que c'est pas toutes les gens en situation d'itinérance qui dérangent. Il y en a, la majorité vont plus se cacher puis s'isoler que de déranger. Tu sais, je pense que c'est une minorité, ceux qui dérangent. Puis, en même temps, ceux qui dérangent en essayant de combler leurs besoins. Des fois, c'est bien aussi de se remettre en question face à notre vision d'eux. Parce que, tu sais, je me dis, moi, avant de rencontrer quelqu'un qui dort dans le bois ou n'importe quoi, OK, j'ai pas de trouble de santé mentale, j'ai pas de trouble de toxicomanie, j'ai assez pour me... Tu sais, je gagne assez ma vie pour me payer un appartement, manger à ma faim. C'est peut-être pas la réalité de tout le monde. Avant de me sentir offusqué des comportements d'une autre personne, je vais essayer de me rappeler ça. Puis, tu sais, même si dans la vie, on n'est pas égal, moi, j'essaye de me mettre sur un pied d'égalité avec la personne. Donc, pour la différence entre les différentes municipalités, c'est ça, c'est des êtres humains. Chaque être humain est unique. Puis il a son histoire particulière à lui. Moi, je vois pas de différence, à part peut-être qu'il y en a plus, mettons, dans certaines municipalités, tout dépendant des services qui peuvent en attirer plus, ou il y a plus de services parce qu'il y a plus de gens dans cette situation-là. La poule ou l'œuf, des fois, c'est difficile à savoir. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y a pas assez de services dans tout le Québec. La majorité des hébergements d'urgence sont pleins à l'année. Fait qu'on voit souvent une grande mouvance des gens, justement. C'est pas les gens de Saint-Jérôme, les gens de Sainte-Thérèse, des gens de Beaubriand. Souvent, comment que, mettons, les hébergements d'urgence fonctionnent, c'est quand t'as une place, t'as le droit, des fois, mettons, à 30 jours. Que, mettons, puis tu peux pas te réinscrire tout de suite, puis il y a une liste d'attente de toute façon. Mettons, fait 30 jours à un endroit, bouge de ville, 30 jours à un endroit, bouge de ville. J'en connais plusieurs qui font le tour du Québec, qui se promènent entre les Laurentides, l'Abitibi, Gaspésie, Montréal, Rive-Sud.
Donc, à certains points, on pourrait même employer le terme nomadité.
Oui.
pour ces individus-là.
Ouais, mais pas nécessairement par but de vouloir, mais par recherche de, oui. de services libres.
Par la suite, je me demandais, plusieurs personnes ont des stéréotypes par rapport aux individus en situation d'itinérance, comme on vient d'en discuter. Généralement, ceux-ci sont négatifs, les gens ayant des préjugés envers ces personnes. Pourquoi est-ce que vous pensez que la société réagit aussi négativement en quasi-effraie de ces personnes-là?
C'est peut-être causé par les pressions de notre société, qui est dans la production, de faire de l'argent, d'avoir la grosse maison. C'est faire une petite parallèle avec, mettons, des troubles de santé mentale. Là. Bon, ben, quelqu'un, mettons, qui a 10 000 gourdes chez eux, là. Il y en a peut-être trop, peut-être que, oui, ça peut peut-être être vu comme une collection, mais beaucoup vont dire, ah, tu fais de l'amassement compulsif. Sauf que si c'est des signes de dollars que tu accumules dans un compte de banque, tu as réussi dans la vie, même si tu en as des milliards. Moi, je pense que peut-être tu as pris la part des gens, que c'est les autres qui leur en manquent éventuellement. S'il y avait un meilleur partage des ressources, ça serait plus facile. Mais pourquoi que les gens ont... C'est ça. Je pense que c'est les pressions sociales qui montrent que, ah, ben pour réussir, ça prend ça. C'est l'archétype de la réussite, c'est ça. Fait que si t'es à l'opposé des attentes ou des pressions que les gens se mettent ou subissent, ben là, ben pour des fois se sentir mieux, ou peut-être aussi de pas l'avoir vécu ou de pas avoir personne dans ta famille qui l'a vécu, des fois, on oublie à quel point on peut être privilégié au Québec, au Canada, comparé à certains endroits où ce que nos personnes qui vivent de l'itinérance au Québec peuvent être peut-être mieux traitées que tous les citoyens d'un autre pays.
C'est parfait. Ma prochaine question parle plus du phénomène social en tant que tel, donc qui est l'itinérance, qui remonte à l'Antiquité gréco-romaine. À travers le temps, l'opinion de la société a changé vis-à-vis ce groupe d'individus, ceux-ci étant moins stigmatisés et étiquetés. Pensez-vous que dans le futur, il pourrait y avoir encore moins de préjugés sur les personnes sans-abri? Pensez-vous que la société serait plus ouverte vis-à-vis leur situation?
J'espère que ça n'existera plus. Moi, je rêve d'une société où ce que les besoins de base de chacun sont comblés à la base, puis après ça, tu sais, si tu veux un peu plus, ben là, tu vas pouvoir te payer du luxe, tu sais. Si tu sais, je me base sur, mettons, des modèles dans le passé ou même encore dans certaines communautés autochtones où ce que, tu sais, la communauté est devant autant que les jeunes qui sont capables d'aller chasser, ben, tu sais, le bon chasseur. C'est pas grave s'il ramène 10 chevreuils puis le moins bon en ramène rien qu'un ou des fois il en ramène pas. Toute la communauté va manger puis toute la communauté va mettre la main à la pâte pour arriver au but que tout le monde, leur besoin soit comblé plutôt que d'être dans une surconsommation où ce que on prend nos ressources naturelles, on les crame puis on en fait des billets de banque juste pour les accumuler dans un compte. Fait que je sais pas si je vais voir, je pense pas voir ça de mon vivant en tant que société parce que le partage des ressources est vraiment est pas équitable. Mais c'est ça, où ce que ceux qui sont capables un peu plus pourraient donner un coup de main à ceux qui en ont besoin, tu sais.
Super. Donc, pour la prochaine question, je me demandais, plusieurs installations faites par les différentes municipalités, comme l'installation de stations sanitaires et l'ouverture de plusieurs abreuvoirs autour de la ville ont été instaurées dans les dernières années. Est-ce que vous pensez que d'autres actions devraient être prises par les municipalités? Et si oui, quelles sont-elles?
Moi, je pense des politiques d'inclusion puis de voir comment qu'une municipalité peut aider tous ses citoyens, qu'il y ait un toit ou non, ça serait vraiment bien. Donc, mettons, si on parle plus particulièrement de l'itinérance, les politiques pas dans ma cour, de tu sais, avec, mettons, qu'ils ont des polices municipales, que la ville met de la pression sur les policiers pour qu'ils démantèlent les campements aussitôt qu'il y en a un qui est vu, ou carrément faire du harcèlement envers les personnes en situation d'itinérance pour ticket après ticket après ticket pour que la personne fasse comme un moment donné, ben je vais m'en aller, là, à force, c'est vraiment le message est clair, t'es pas le bienvenu ici, puis ben le monde l'entend, le comprenne, puis c'est ça, quand t'es en situation d'itinérance, t'es déjà comme la dernière forme d'exclusion avant d'être mort, là. Fait qu'au lieu de faire tout ce que j'ai nommé de négatif, ben, d'instaurer de dédier des terrains, mettons, pour que les gens puissent installer des campements, faire des lois pour que, mettons, tout ce qui est besoin de base, t'as pas le droit de faire plus que tant de pourcents de profit. Tu sais, mettons, on pourrait commencer par le logement, l'épicerie, déjà en partant. Si t'es logé pis t'es nourri, il y a une partie de tes besoins de base qui sont comblés. En plus, c'est pas juste logé. il faut que tu manges tout le mois. Fait que oui, il y a des banques alimentaires, mais ça remplace pas une épicerie. Puis tu sais, des systèmes de toilettes aussi dans les campements. C'est ça, tu sais, au lieu de faire un nouvel amphithéâtre, c'est beau l'art, c'est super l'art. Mais les besoins des humains qui vivent dans notre société sont primordiaux au luxe de l'art.
Super. Puis je me demandais justement, dans un article que j'avais lu, qui était, me semble, avec Le Devoir, si je me trompe pas, qui parlait aussi de la nuit des sans-abri, on parlait aussi plus de la sensibilisation des commerçants envers les personnes en situation d'itinérance. Pour vous, ça, c'est quoi l'importance de sensibiliser ces personnes-là pour le phénomène d'itinérance qu'on retrouve?
Moi, je pense que c'est important de sensibiliser tout le monde qui l'est moins. Mais les commerçants, ça peut avoir un impact direct envers que les gens en situation d'itinérance puissent combler leurs besoins. Ne serait-ce que qui prêtent leur toilette ou qui prêtent un coin de table pendant qu'il fait frette ou trop chaud. Dans mon coin, t'as, mettons, la bibliothèque, quand elle est ouverte, le monde sont les bienvenus, mais si les gens, ils peuvent pas, tu sais, mettons, en tant que commerçant, c'est important de savoir que si tu dis non à quelqu'un qui veut utiliser tes toilettes, ça se peut qu'il fasse ses besoins alentour de ta bâtisse. Est-ce que c'est mieux? C'est sûr qu'il y en a qui sont échaudés parce que, oui, 1 sur 100, 1 sur 1000 qui va des fois faire un peu de saccage dans la salle de bain. C'est la vie qui fait ça, mais ça veut pas dire que parce que quelqu'un a cochonné la salle de bain qui était en situation d'itinérance. Des troubles de comportement, il y en a dans toutes les classes de la société. Puis, ben c'est ça. J'ai souvent un peu plus de compassion pour ceux qui sont en survie, mettons. Moi, personnellement, j'essaie de la transmettre.
Puis, je me demandais justement, pour continuer, il y a plusieurs municipalités qui ont entrepris des événements pour pouvoir sensibiliser, comme on parlait, la population non itinérante envers celle qui l'est. Il y a quelques semaines, la nuit des sans-abri a eu lieu un peu partout à travers le Québec dans le même but de sensibiliser. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi cette nuit consiste et à quel point vous croyez que cet événement, qui tire déjà sur sa 36e édition, amène un impact au niveau de la société et des personnes en situation d'itinérance?
La date aussi, c'est très important. On fait pas ça le 20 juin. On fait ça le 3e vendredi d'octobre à chaque année. Il faisait pas super chaud dans la soirée et dans la nuit, il a fait 3 toute la nuit. C'est pour pas que le monde fasse comme hey, c'est le fun, c'est pas la fête des gens en situation d'itinérance. Donc, c'est vraiment une vigie, mais il y a quand même une fête. On fait ça dans le plaisir. On n'est pas là en train de pleurer, mais il peut y avoir justement des témoignages de gens qui l'ont vécu ou qui le vivent, qui viennent. Nous, de la façon qu'on l'organise dans la MRC Thérèse de Blainville, on essaye de la faire changer de ville à chaque année. Il y a 7 villes dans la MRC, donc on essaye de faire le tour d'un aller à l'autre. Oui, c'est ça, pour sensibiliser, mettons, les gens de telle ville, de telle ville, de telle ville, parce que si on le fait toujours, mettons, à Sainte-Thérèse ou Beaubriand, où que les villes sont déjà le plus sensibilisées et les citoyens un peu aussi, ben, de le faire dans une autre ville où ils en entendent moins souvent parler, ben là, ben, on a rencontré des gens qui étaient en situation d'itinérance ou des gens qui l'ont vécu ou des gens qui travaillent avec eux, puis que finalement, ça a changé certains de mes préjugés. C'est pas, puis on en profite en même temps pour faire des kiosques. On invite tous les organismes, dans le fond, puis les instances qui peuvent donner un coup de main, soit avec les gens en situation ou à risque de devenir en itinérante. Fait que, il va souvent avoir les gens de l'aide alimentaire. Mettons, même le CIS peut être là avec, mettons, les programmes Espoir, les CIDEP. Fait que les organismes communautaires aussi, là, ceux qui, mettons, comme hébergement d'urgence, etc., les travailleurs de rue. Donc, tu sais, c'est autour d'un feu avec un peu de bouffe, du café pour se tenir chaud, de la soupe. Puis, c'est ça, nous, on le fait pas nécessairement comme pour un comptoir, mettons, distribution de linge. C'est déjà, ça arrive souvent. Puis il y a certaines nuits des sans-abri dans différentes villes parce qu'il y a un comité national de la nuit des sans-abri qui donne les grandes lignes. Chaque comité qui décide de le faire peut l'adapter à sa façon. Il y a juste des grandes lignes que ça doit pas être on doit pas vendre rien, on doit pas s'attacher à aucun parti politique, etc. Ça, c'est comme primordial. Mais après ça, si tu veux faire jouer de la musique, si tu veux inviter des artistes, etc.
Je me demandais par la suite, la société parle beaucoup de, entre guillemets, juste trouver un endroit pour habiter pour les personnes sans-abri. Selon la société, cela réglera plusieurs cas d'itinérance. Pensez-vous que la première action d'assistance pour les personnes en situation d'itinérance est de leur trouver un logement et pourquoi? Aussi, j'ajoute qu'il y a des nouveaux logements dans la ville de Saint-Jérôme qui sont mis en action de se faire construire en 2026. Est-ce que selon vous, selon vos connaissances générales, ça va faire une différence sur le nombre d'itinérants présents?
J'avais entendu 40 tente. Okay. Logement abordable, okay. C'est oui, sûr oui. qu'on parle, parce oui. que des condos à trop cher, ils en construisent tout le temps.
Oui.
Mais j'avais entendu, tu sais, mettons, 40 à Saint-Jérôme, c'est ce que j'ai entendu. Puis je pense que j'ai entendu alentour de 150 personnes en situation d'itinérance. Le ratio, il n'est pas là. Puis c'est peut-être pas le premier besoin de chacun. Mais par contre, oui, il en manque, il en manque, il en manque, il en manque. Beaucoup, oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Construisez-en beaucoup plus que 40. Puis c'est ça. Je parlais tantôt, tu sais, de mettre un haut là à trop de profit sur un besoin de base. T'sais, il devrait avoir un pourcentage de logements luxueux pour les gens que ça leur tente de payer 6 000 $ par mois et plus. Là, t'sais. Mais c'est ça. Les gens qui sont bénéficiaires de l'aide sociale ou qui travaillent à temps plein à salaire minimum, qu'il faut qu'il y ait 3 jobs. Un moment donné, là, tu travailles de 8 à 4, de 4 à minuit, puis de minuit à 8, tu dors quand, là, si t'es rendu avec 3 jobs à temps plein. Là. Fait que oui, ça en prend des logements, faut en construire, puis surtout abordables. Peut-être ça, mettre des hauts là à ceux qui chargent trop cher. Par contre, je pense que l'action qui est requise pour le but de sortir les gens de la rue, ceux qui veulent en sortir, bien sûr. Là, ce serait vraiment dommage qu'on se mette à obliger les gens, mais ça serait d'adapter les services et l'aide à chacun des individus qui est dans cette situation-là. Mais pas juste dans cette situation-là, à tous les individus, tous les citoyens, je pense.
Qui sont en nécessité de services généraux, là.
Exactement. C'est pourquoi qu'on a tant de la misère à avoir des médecins. T'sais. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation d'itinérance, qu'ils seraient peut-être admissibles, à une aide financière plus grande, mettons qu'ils ont quelque chose qui les empêche de travailler. Que ce soit trouble de comportement, trouble de santé, physique, mental, peu importe, traumatisme, etc. Peu importe c'est quoi qui t'empêche de travailler, tu devrais au moins être capable de vivre dans notre société. Là, t'es vivant. Là, t'sais, c'est comme pas attendre qu'ils meurent un après l'autre, que leur santé s'aggrave, parce que ça ira pas mieux, tu sais, ça va coûter plus cher à la population, puis au gouvernement, mais que c'est qui paye le gouvernement? C'est les citoyens, anyway. Fait que, tu sais, si les personnes sont de moins en moins en santé physique et mentale, ils vont être hospitalisés, puis ça coûte plus cher que de leur payer un logement.
Puis, donc, pour conclure, justement, en parlant de qu'est-ce qu'on souhaite d'un certain sens, est-ce qu'il y a un certain message dans ce même chemin-là que vous espérez que les gens qui aient écouté notre entrevue retiennent, qui doit rester important par rapport au phénomène d'itinérance okay. en société générale?
Je souhaite que tout le monde, si ça peut se faire sensibiliser un petit peu, que si tu veux pas faire partie de la solution, au moins pas faire partie du problème. Si ça vient pas toucher ton empathie, les gens en situation d'itinérance, mêle-toi pas de ce sujet-là.
Mais vraiment, c'est un sujet qu'on pourrait parler oui. là, pendant des heures, mais j'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé en partageant votre expertise. Là.
Merci de nous avoir invités, c'est vraiment cool.
Merci beaucoup.